Bonjour à tous, je suis Alice Vaché et je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Sabin, le responsable développement durable chez HP France, l'entreprise spécialisée dans la conception d'ordinateurs, d'imprimantes, d'accessoires et de services pour répondre aux besoins des particuliers et professionnels. C'est bien tout ça ce que j'ai dit ?
C'est parfait, merci.
C'est bien tout ça, ça commence très français tout ça aussi. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte. Bon Mathieu, c'est combien de temps que tu es responsable développement durable ? Parce que c'est un poste, c'est nouveau d'ailleurs, même comme intitulé de poste développement durable.
Alors ben en fait non, c'est pas nouveau du tout chez HP. Alors,
ouais.
Parce que la personne que j'ai en place, Catherine, elle était là depuis très longtemps en fait, depuis quelques années. Donc c'est pas du tout nouveau d'avoir des responsables développement durable pays pour HP. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important de travailler dans les plus gros pays où on fait du business pour pouvoir vraiment avoir une très bonne compréhension du contexte réglementaire local, travailler avec les syndicats d'industrie, etc., être capable donc d'être conforme au niveau mondial dans tous les pays dans lesquels on travaille.
Que j'imagine que ça doit être compliqué de faire la même chose d'un pays à l'autre. Tu dois t'adapter.
On doit s'adapter complètement.
Les réglementations ne sont pas les mêmes.
C'est pas les mêmes du tout. Et puis même souvent, et même au niveau Union européenne, on pourrait se dire que c'est assez uniformisé, mais en fait, pas du tout.
Non, pas du tout.
Je pense
c'est
que
tu as déjà
interviewé des gens qui t'ont dit la même chose. Mais c'est vrai que, par exemple, la France, c'est vraiment le cavalier de développement durable en ce moment.
C'est vrai. Ça fait plaisir de se le dire. Mais tu vois, c'est bien.
On sort un nombre de lois à la minute sur l'environnement qui est assez incroyable. Et donc, par exemple, rien que la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020, toutes les industries sont touchées. C'est des centaines d'articles. C'est plus de 100 articles liés à l'environnement et au social. Et du coup, bah, tout le monde est touché. Mais sauf qu'il y a pas mal de règles qui, par exemple, vont pas être les mêmes que celles qu'il va y avoir en Espagne ou en Allemagne ou dans d'autres pays.
Et maintenant, si on parle des engagements du groupe, toi, c'est combien de temps que tu m'as dit que tu étais
Alors, moi,
poste?
Ça fait deux ans et quelques.
En deux ans, t'as dû voir tellement d'évolution. Ça va tellement vite en ce moment que.
D'un point de vue besoin client, consumer, donc B2C, B2B, la réglementation, les besoins de la corp.
Non, mais toi, t'es en plus là, la tech, t'es vraiment sur le sujet clé, sur maintenant, on va allonger la durée de vie des produits. On sait que c'est la production qui est la pire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour.
Je pense que vous avez dû interviewer donc un fabricant de PC aussi ou de téléphone. Mais c'est souvent, donc, en effet, où est-ce que va résider l'impact d'un produit? Ça va dépendre, en fait, du produit. Pour prêcher pour ma paroisse, sur un PC portable ou un ordinateur fixe, ça va être, par exemple, la partie production qui va être la plus impactante.
Et même d'ailleurs entre un PC portable et un fixe, il y a une différence.
Il n'y a pas 50%. Pour un PC portable, c'est presque 80%, entre 70 et 80% de l'impact qui va être lié à la production. Ah, c'est énorme.
Hein. C'est comme le smartphone, c'est 90% le smartphone.
C'est ça. Donc après, on parle de transport, mais là où ça fait le plus mal, c'est la production. C'est important d'agir sur le transport aussi, mais il faut aussi être capable en tant que constructeur de savoir où réside l'impact pour mettre le paquet pour en fait justement baisser l'impact. Mais par exemple, sur un printer, c'est différent. Sur une imprimante, c'est l'impact principal.
C'est
sur la phase d'utilisation. C'est le papier, exactement. C'est sur la phase d'utilisation, donc l'énergie utilisée, le papier consommé ou les cartouches qu'on utilise. Donc en fait, en tant que consommateur, même nous, qu'on soit un client B2B ou un client B2C, si on veut baisser notre facture environnementale, eh ben, il va plutôt s'orienter vers des feuilles en papier recyclé ou des feuilles certifiées FSC, donc qui viennent de ce forêt éco-manager, ou bien choisir sa cartouche pour être sûr qu'elle est bien conçue, qu'elle intègre de la matière recyclée. Parce que par exemple, ce qui est rigolo, c'est que l'impact d'une cartouche, il dépend de sa production. Alors que l'impact de l'imprimante dépend du coup de l'impact de la cartouche.
Et de
la feuille de papier.
Non, mais c'est vrai. Ils ont un scope 1, scope 2, scope 3, les imprimantes finalement entre eux.
Ouais, presque. C'est ça, en effet. On est vraiment sur la directe.
Mais c'est ça
qui est hyper intéressant là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'aussi, donc, les groupes comme HP, mettent en place des dynamiques pour baisser l'impact effectif à ce niveau-là. Comme tu le disais, comment on va allonger la durée de vie des produits, comment on va proposer des services de reconditionnement pour pouvoir, donc.
C'est inclus carrément chez HP, les services de reconditionnement.
De plus en plus, on travaille sur la proposition de services de de reconditionnement à nos clients pour que leur PC ne dure, à la place de durer par exemple 4 ans, ils en durent 7, 8. Donc c'est vraiment.
Et comment ça marche d'ailleurs un service comme ça?
Mais en fait, on va récupérer donc les produits en fin de vie chez nos clients, on va les reconditionner donc dans des usines de reconditionnement et ensuite on va les réinjecter soit chez notre client, soit les revendre sur des marchés secondaires, donc du coup pour leur accorder une seconde vie.
Et sinon, ton client il a un bon d'achat quand c'est comme ça? Quand il reprend, il n'y a pas.
Là, c'est surtout par rapport aux clients B2B.
B2B, d'accord. Mais donc, après, reprendre les flottes, non, c'est bon à passer comme message aux entreprises qui ne savent pas quoi faire, puisqu'ils sont obligés de ne pas se débarrasser des PC.
Eh bien, évidemment. En fait, ce qui est rigolo ou pas, mais c'est initialement, il y a quelques années ça, donc je n'étais pas encore dans la partie développement durable, je n'étais même pas encore chez HP, ils ont mis en place évidemment ce qu'on appelle des systèmes de responsabilité élargie du producteur. Et de facto, le producteur avait l'obligation de récupérer, donc de traiter les produits en fin de vie chez ses clients, soit via un système individuel, donc un opérateur de recyclage qui est choisi par le constructeur, soit via des systèmes collectifs comme par exemple écologique ou écosystème. Le panel de services pour gérer la fin de vie des produits est en train de s'élargir énormément parce qu'on se rend compte que gérer la fin de vie d'un produit, c'est aussi limiter son impact au niveau de la production. Donc par exemple, en lui accordant une seconde vie, eh ben on remplit un besoin avec un produit où on a déjà eu la phase de production qui était faite. Du coup, on élimine entre 30 plus 30% de l'impact de la machine en considérant parce que du coup il y a quand même
le reconditionnement. C'est quoi d'ailleurs l'empreinte d'une phase de reconditionnement? On en parle pas souvent de ça. Hein.
Alors surtout en fait l'impact, ça va dépendre de ce qu'on va changer dans la machine, parce que par exemple sur un laptop, ce qu'il va souvent falloir changer, c'est la batterie par exemple.
Ouais.
Alors tout le monde va se dire la batterie c'est le plus polluant, c'est pas le cas. Sur un laptop.
Attends, mais tout ça, comment est-ce qu'on peut savoir, nos consommateurs? Ce serait trop bien que le consommateur, quand il achète son PC, ils connaissent exactement l'impact de tous.
Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper important de se rappeler, c'est quand même aussi une direction dans laquelle va l'État, et c'est aussi ça qu'on essaie de pousser chez HP, c'est qu'avant de racheter un matériel neuf, allez voir si vous pouvez pas le faire réparer. Parce qu'en fait, si vous le faites réparer, évidemment, c'est du reconditionnement en chaîne courte. Si vous ramenez votre PC chez Fnac ou chez un autre réparateur et qu'il vous le répare, ben vous avez évité le fait de reconsommer un autre ordinateur. Alors par contre, ça aussi, ça implique le fait de se dire, je vais pas acheter la dernière nouveauté avec le meilleur processeur, etc. Et de savoir aussi comprendre où réside son besoin. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quel est mon besoin réel par rapport à mon produit et est-ce que je peux pas le faire tirer plus longtemps. C'est vraiment important, ça.
C'est très fair play ce que tu me dis. T'es quand même un constructeur et tu nous dis d'allonger la durée de vie. Et ça, je trouve ça bravo. Chapeau. Non, mais c'est vrai, parce que finalement, ouais, t'es une marque, tu vends. Mais en fait, t'as quand même une conscience. Tu dis, bah, en fait, ouais, mais d'abord, essayez de réparer, essayez d'allonger la durée de vie de votre produit.
Complètement.
Et après, on verra pour la nouveauté. Surtout que les nouveautés sont de plus en plus éco-conçues.
Eh bien, en fait, alors qu'est-ce qu'on fait dans les nouveautés produits? Et donc là, je parle encore pour toute ma paroisse qui est assez large. C'est qu'on va essayer de réduire donc cet impact. Alors, c'est pas parce que je vous dis que par exemple la phase de production c'est la plus émettrice de CO2 pour un PC qu'on travaille pas sur le transport ou qu'on travaille pas sur la partie usage, etc.
Comme l'usage, hein, d'ailleurs. Voilà, faites gaffe quand vous utilisez vos trucs, laissez pas en veille, voilà.
Donc en fait, on travaille sur l'ensemble du cycle de vie de la machine, mais en fonction de notre compréhension, on va avoir telle ou telle action. Sauf que nos produits chaque année, donc qui vont sortir, ils vont intégrer donc de nouvelles évolutions et innovations. Par exemple, on va intégrer de plus en plus de matières recyclées dans la machine pour pouvoir donc réduire son impact de phase de production, donc utiliser des composants qui existent déjà sur le marché. Quand on va utiliser du plastique recyclé dans une machine, c'est du plastique recyclé post-consommation qui a déjà eu une vie. On va donc réduire le coût d'extraction de la matière première, de la transformation, pour l'intégrer dans la machine derrière. On utilise aussi beaucoup de métaux recyclés dans nos produits, et on a même des produits comme le Dragonfly qui intègre par exemple plus de 90% de magnésium recyclé dans son châssis. C'est assez énorme. On va donc utiliser donc l'intégration de matériaux recyclés pour limiter la phase de production, mais on va aussi par exemple tabler sur la réduction de la consommation énergétique, principalement pour les PC où leur phase d'usage est littéralement la consommation énergétique de la machine dans son utilisation. Pareil pour les écrans. Et on va aussi mettre en place pour les printers par exemple des systèmes d'optimisation de la consommation papier avec de l'impression en duplex. Donc, par exemple, on va imprimer des deux côtés.
Il y en a qui veulent pas encore imprimer.
Ils préfèrent sur du chasson. Mais sauf que ça, c'est un petit éco-geste qu'il faut aussi savoir utiliser, parce que on coupe en deux la quantité de papier utilisé. Et il y a plein de petits logiciels qu'on va développer dans nos machines pour aussi accompagner donc l'utilisateur à baisser sa consommation. Et aussi, on va faire en sorte que nos produits soient le plus recyclables et réparables possible, évidemment.
D'ailleurs, tu me parlais du plastique recyclé. Donc, j'imagine que tu as encore beaucoup de produits qui utilisent du plastique. C'est lequel aujourd'hui qui utilise le moins de plastique recyclé? Parce que j'imagine que ce n'est pas une volonté, c'est juste que tu n'as pas trouvé peut-être le plastique à recycler.
Alors aujourd'hui, sur l'intégralité de notre portfolio, les machines sur lesquelles on va avoir le moins de plastique recyclé, ça va pas être les PC. Les PC, on en taque beaucoup.
Ah ouais,
de
matières recyclées,
on en taque beaucoup.
Et puis,
les écrans, c'est incroyable, on en met énormément. Les desktops aussi, on en met beaucoup. parce que c'est plus facile d'intégrer. Sur nos impressions laser, par exemple, on va avoir un peu moins de... C'est pareil pour la partie consumer. On a plus dans la partie consumer de plastique recyclé. Dans nos gammes professionnelles, on a un peu moins parce qu'on a beaucoup plus travaillé sur la partie usage, qui est la partie qui a le plus d'impact sur le printer. Par contre, on est aussi dans des grosses stratégies d'engagement, d'intégration de matières recyclées. Donc là, d'ici 2030, on a 75, on s'est engagé à ce que 75% de nos produits, donc les packaging en poids, soient issus de l'économie circulaire. Donc ça veut dire que, évidemment, de facto, la taux de matière recyclée dans chacune de nos machines,
on va croître. Et c'est quoi les pourcentages qui manquent? C'est vraiment une question de, parce que je pense que si on pouvait tout recycler, on le ferait.
Alors,
c'est
pourquoi on n'a pas un toit à 100% par exemple de matière recyclée? Alors ça va dépendre, par exemple, principalement pour les plastiques, ça va dépendre aussi, de la R&D derrière, est-ce que ça va fragiliser le produit, quel type de plastique recyclé on va utiliser.
C'est pas les mêmes.
Et non, parce que par exemple, nous, on va utiliser du plastique océanique. Donc, un plastique océanique, attention, je réinforme le consommateur.
Ouais, j'ai l'impression que j'ai tout de suite des tortues, les océans, c'est peut-être pas ça.
Alors voilà, c'est pas du plastique qu'on va collecter dans la mer. Il faut.
J'étais déjà parti en bateau, là, de collecter ton plastique.
Bon, on n'est pas très loin du bateau, parce que du coup, nous, on les collecte principalement en Haïti. Donc, c'est un plastique océanique, c'est un plastique qu'on va collecter avant qu'il finisse dans la mer. C'est justement prévenir plutôt que guérir.
Parce qu'on ne peut plus rien en faire de ce plastique.
C'est très difficile de réutiliser un plastique qui a été dans la mer. Ouais.
En fait, c'est vraiment une plaie, tout ce qu'il y a dans les océans. Ah non, mais vraiment. Oui. Non, mais ça, tu vois, c'est un truc qu'on ne sait même pas. Donc on a l'impression qu'on peut le recycler.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs d'ONG qui vont aussi travailler pour collecter les plastiques aux embouchures des fleuves ou qui vont les collecter sur les plages. Parce que du coup, il n'aura pas encore été altéré par les sels marins et on pourra encore l'utiliser plus facilement. Alors qu'aujourd'hui, si on le collecte dans la mer, il y a déjà de fortes chances qu'une grosse partie du plastique soit non utilisable.
Je crois qu'on peut faire des fringues avec ou des trucs comme ça quand même.
Oui, par exemple, ils font des petits bracelets aussi où il y a plein de choses qu'ils vont utiliser.
On a tous besoin d'un petit bracelet, c'est bien
avant. Mais c'est des initiatives qui ont du sens parce que ça permet de financer l'action pour aller donc polluer. Donc là, nous, quand on fait ça, on pourrait se dire, mais sinon, si vous utilisez du plastique en bouteille classique que vous allez récupérer sur les chaînes d'approvisionnement classiques, ce serait peut-être plus facile pour nous. Mais par contre, là, par exemple, quand on va aller collecter ce type de plastique-là, donc là, aujourd'hui, c'est en Haïti, bon, aussi, on se développe dans l'Asie du Sud-Est aussi pour le faire, mais c'est qu'on va avoir un impact aussi de dépollution, parce que c'est des zones extrêmement polluées, et aussi, on va avoir un impact social.
Et c'est ce que j'allais te dire, du coup,
on crée donc des opportunités de revenus pour des gens dans ces zones-là, et donc on a un peu le triangle magique du développement durable qui est d'avoir un impact au niveau environnemental, social et développement économique local, parce que si le développement durable, c'est pas que l'environnement et le social, c'est aussi le développement économique et éducatif, donc faut pas l'oublier ça aussi.
Bien sûr, c'est hyper important. Et tu me dis que Haïti, Asie du Sud-Est, donc t'as beaucoup de transport, mais ça c'est normal, tu es dans le monde entier. Comment est-ce que tu optimises ce transport, cette empreinte carbone?
Alors là, pour le coup, pour la partie transport, on essaie au maximum d'utiliser ce qu'on appelle des solutions multimodales. C'est-à-dire par exemple, envoyer tout en avion, on va utiliser beaucoup le bateau, on va utiliser donc un mélange entre le transport ferroviaire, le transport routier.
L'avion, c'est plus pour les urgences.
Alors exactement, par exemple, aujourd'hui, dans une situation de crise maximum comme celle-ci, avec nos clients principalement B2B, d'accord? C'est surtout les clients B2B qui sont touchés par ce type de transport-là. On va évidemment envoyer en avion quand c'est d'urgence.
Est-ce qu'ils ont un coût en plus, un coût carbone?
Est-ce qu'ils ont
coup, c'est toi qui vas lancer la taxe carbone?
Alors pour le coup, moi mon rôle au quotidien, c'est quand même de les sensibiliser par rapport aux alternatives qu'on peut leur proposer. Par exemple, leur montrer qu'en moyenne, quand j'envoie un PC ou par train plutôt que par avion, je divise par 22 le coût carbone lié au transport, qui, comme je le rappelle, est une petite part de l'impact, mais qui est quand même une part visible et qui est une part aussi qui est pas négligeable.
Mais même pour vous, parce que du coup, ça s'inscrit dans l'empreinte carbone.
Totalement.
Plus
j'envoie de machines via des transports avec un impact moindre, et mieux je me porte aussi en tant que pour baisser l'impact de mes machines. Mais par exemple, on va avoir aussi l'utilisation donc de carburants alternatifs. Quand on va utiliser des camions, alors évidemment, on va utiliser par exemple des camions diesel Euro 6, par exemple, qui sont donc des...
Euro 6,
c'est des normes, en fait, de consommation diesel.
Il y en a tellement partout.
Il y en a partout. Mais normalement,
j'apprends toujours, c'est génial.
C'est censé être les meilleurs pour vraiment limiter la pollution liée à ce type de carburant-là. Mais évidemment, le diesel, c'est pas forcément une solution long terme. Donc, on va utiliser, par exemple, beaucoup aussi de carburants alternatifs. On est en train d'utiliser, par exemple, dans certains endroits, la livraison en camion électrique. On va utiliser, par exemple, un carburant dont j'ai appris l'existence, donc les carburants d'huile végétale hydrogénée. À pas confondre avec ce qu'on met dans le Nutella, avec le Nutella.
C'est pas grave, je roule le Nutella. Attends, il pourrait être utile à quelque chose, le Nutella.
Donc du coup, et en fait, avec ces carburants-là, on arrive aussi à vraiment limiter l'impact. Alors évidemment, le transport ferroviaire, ça reste quand même le must, on va
bien
pas se mentir.
Mais ça met combien, par exemple,
On met plus de temps.
Ouais, mais combien ça genre,
Alors ça c'est... On va rajouter quelques semaines quand même de plus.
En fait, il faut retourner à la slow life. Moi, je suis italienne, oui. Hein, j'aime bien la slow life, hein, la Dolce Vita,
ça, c'est
tu
un
sais.
Truc hyper important. Et ben, slow voilà, food, on devrait faire une Dolce consommation maintenant. Et si tu
l'offre
veux,
Dolce.
Exactement. Et si tu veux, en fait, là, ça vient toujours dans un travail d'éducation de nos clients. Plus là, B2B, parce que le consommateur
bon,
va plutôt acheter.
B2B, il est plus dépendant.
Voilà, exactement.
Temps,
on va vraiment leur faire prendre des schémas de consommation différents, de leur proposer de plutôt se faire livrer leur PC, par exemple, en packaging multi-unité, donc ce qu'on appelle du bulk packaging, par exemple.
Ouais, j'ai entendu parler du coup du
packaging. Là, du coup, avec du bulk packaging, on coupe vraiment drastiquement la quantité de matériaux utilisés.
C'est-à-dire, c'est quoi comme
packaging? Alors, on va réduire en général, pour pas se focaliser sur les matériaux, mais plutôt sur l'impact général de ta machine. Quand je t'envoie un PC en bulk packaging plutôt qu'en packaging unitaire, je réduis de 23%.
C'est quoi un bulk packaging?
Bulk packaging, en fait, c'est simple, c'est des grosses boîtes avec plein de PC à l'intérieur.
C'est qu'en fait, donc là, c'est vraiment pour les entreprises, que moi, tout seul, je ne reçois pas un truc en bulk packaging.
Oui, mais par contre, du coup, il y a deux stratégies pour baisser l'impact des packaging unitaires.
Ouais.
C'est aussi, évidemment, pour nos consommateurs finaux, donc les consommateurs, on va aussi beaucoup travailler sur la co-conception du packaging. On va éliminer drastiquement les plastiques,
plastique, ouais.
Évidemment, les polystyrènes.
En même temps, j'imagine que c'est ce qui vous permettait que ça ne se casse pas.
Et
parce
oui,
que
donc,
entre...
du coup, il faut travailler sur une solution.
Mais c'est ça, parce qu'entre renvoyer un PC qui finalement arrive cassé parce qu'il est éco, qu'il est emballé dans du carton... Et finalement, mettre du plastique, et tu vois...
Ah bah c'est tout, beaucoup de travail
c'est
d'ingénierie.
Un jeu d'équilibre, hein.
c'est
ça.
Beaucoup
c'est
beaucoup
de la R&D, tout ça.
On va avoir, par exemple, un packaging qui va forcément être plus lourd, parce que ça va être de la fibre de bois, enfin de papier recyclé qu'on va utiliser, donc c'est plus lourd que le polystyrène. Par contre, on va avoir le même taux de solidité pour protéger le produit dans la boîte. Donc, on arrive quand même à produire aujourd'hui des boîtes qui ont pas de, qui ont, on élimine un maximum de matériaux avec un impact lourd. Et donc, notamment les plastiques à usage unique.
De toute façon, ça va être interdit.
Voilà, exactement.
Ça va être interdit, donc faut y aller tout de suite. Hein. D'ailleurs, on transmet le message.
Voilà,
hein.
on travaille dessus d'ailleurs aussi, déjà avec HP sur cette loi. Alors, nous, on s'est déjà engagé à des objectifs d'élimination de plus de 75% donc du plastique à usage unique dans nos packaging à l'horizon 2025.
Ouais, on sera en amont.
Ouais,
parce
en avance.
Plus, je pense qu'une fois que vous aurez mis le pied dans l'étrier, vous allez trouver des solutions pour les garder.
Exactement. Tu vois déjà que sur la partie PC, on est déjà bien engagé, on a bien
puis
réussi
en fait,
à éliminer.
Plus on avance et plus il y a de solutions qui se créent.
Tout
et je pense que quand tu as des entreprises comme HP, justement, qui peuvent investir dans ces solutions, qui montrent, qui sont clients de ça, bah ça fait que encourager les porteurs de solutions à trouver des choses et des innovations.
Et puis, je pense que les clients en tant que tels aussi sont contents de voir l'évolution.
Bien sûr.
Peut-être que ça vient pas forcément, eux se disent pas, bah, c'est quelque chose que j'aurais demandé initialement, mais je le vois maintenant, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, au final, on voit quand même que les courbes donc, de tendance, les clients consommateurs comme les clients professionnels, les clients publics, les clients privés, il y a quand même une évolution qui va vers, ils ont besoin d'avoir un produit éco-design, enfin qui est
éco-conçu. Surtout si on parle du B2B. Le B2B, ils mesurent leur empreinte carbone, donc tu fais partie de leur empreinte.
Ah ben
donc
hein.
En fait, plus t'es green, plus ils vont aller sourcer vert. En fait, vous êtes, moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça va devenir un cercle entre guillemets vert et vertueux. C'est qu'en tout cas, en B2B, en B2C, on est plus responsable. Je pense que demain, c'est pas demain qu'on va mesurer notre empreinte et nous dire, tu sais, toi là, attention. Mais ça peut arriver en même temps. Mais déjà, en B2B, c'est le cas. Donc, plus toi, tu seras vert et tu fourniras du matos vert, je vais parler, mieux ce sera.
Exactement. Et puis, alors, en fait, ce qui est hyper important maintenant, c'est la transparence qu'on va donner à nos clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui date depuis longtemps déjà chez HP.
C'est
quelque
important,
chose qu'on est vraiment à fond dessus, c'est leur montrer l'ensemble de l'impact de leurs produits pour qu'eux puissent calculer de manière très précise les émissions de CO2 qui sont liées donc à leurs différents scopes.
Ouais.
Et après, c'est comment on les aide à baisser donc cette facture environnementale, enfin cette facture environnementale avec nos solutions, donc en faisant du reconditionnement, en leur proposant des services de maintenance qui vont durer plus longtemps. Enfin, c'est comme ça aussi qu'on va les accompagner. Donc, on va leur dire, c'est ça le bilan. Et c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble pour le réduire. Et puis, surtout aussi, nos clients ne nous attendent pas forcément non plus pour faire des stratégies. Hein. J'ai beaucoup de grands clients qui vont me dire, alors c'est ça la facture environnementale. J'ai pensé à ça. T'en penses quoi? On pourrait faire comment? Et eux-mêmes, ils ont des stratégies en interne qui va permettre de baisser leur impact. Parce que pour certaines entreprises, l'IT ne représente qu'une part infime de leurs émissions. Par exemple, dans le bâtiment ou d'autres.
Ah oui, dans
d'autres industries comme, par exemple, la banque ou d'autres industries dans l'industrie tertiaire. Bah, évidemment, l'informatique qui est donc, qui permet de produire, en fait, les services. C'est une émission qui est quand même non négligeable. Donc, ils ont besoin aussi de prendre beaucoup d'actions à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que les besoins de nos clients privés vont être extrêmement axés, par exemple, sur la compréhension de l'impact de CO2. Les besoins des clients publics vont être beaucoup plus poussés vers la réparabilité, vers le reconditionné. On va avoir des clients consommateurs qui vont être aussi de plus en plus friands, donc, de packaging qui embarquent moins de polystyrène ou autre. On va avoir, évidemment, de facto, on a une évolution du marché vers ce besoin d'éco-conception, de compréhension de l'impact d'éco-conception.
C'est bon signe. Bon, après, faut qu'on accélère tous, mais franchement, c'est bon signe.
Ouais.
Et c'est quoi d'ailleurs, toi, tes next steps?
En tant que responsable environnemental.
Ouais, c'est quoi tes gros projets, là, par exemple?
Moi, c'est par exemple, notamment, stimuler la collecte de produits en fin de vie, parce que ça, souvent.
On en fait quoi, tiens?
On les traite très bien. Ils sont tous traités en France, d'ailleurs. Toutes nos imprimantes et tous nos PC HP.
Demain, mon PC est mort. J'en fais quoi?
Toi, par exemple, tu peux le ramener là où tu l'as acheté, par exemple, sur une surface. Par exemple, tu peux l'amener, par exemple, sur une surface de plus de 400 mètres carrés. Tu vas chez la Fnac, chez Darty, n'importe qui. Tu peux le ramener ton PC en fin de vie. Et ils peuvent donc le faire retraiter. Ils vont travailler, donc, avec des éco-organismes qui vont actionner des leviers d'opérateurs recycleurs qui vont venir collecter, recycler en bonne et due forme et être capable aussi de reporter à l'État donc les quantités de produits qui ont été mis en marché. Nous, on donne à l'État donc la visibilité sur nos mises en marché et puis l'éco-organisme voit combien en fait a été collecté vis-à-vis de ces mises en marché et donc l'État donne des objectifs. Là, nous, on doit. L'objectif aussi, c'est de permettre donc de simuler cette collecte pour nos clients B2B et B2C, donc en rappelant que donc il y a des programmes de collecte, en rappelant que ça sert à rien de laisser son PC moisir dans son placard.
Il y en a plein, j'ai
placard.
Vu des chiffres incroyables sur le nombre d'appareils IT qu'on a à la maison qui sont morts, ou en fin de vie.
Surtout que le stéréotype, on pourrait se dire que en fait la machine elle va finir enterrée dans un sous-intérieur, c'est pas vrai du tout. Les taux de recyclabilité par exemple pour les produits HP, ils sont à plus de 90%. C'est-à-dire que si vous ramenez votre machine, alors évidemment il va y avoir des facteurs qui vont faire que ce sera plus ou moins par rapport donc aux performances de l'opérateur aussi ou des filières de recyclage. Mais par exemple, on va avoir la vaste majorité de notre produit où on peut réutiliser les composants derrière, on peut réutiliser la matière première. C'est-à-dire qu'on limite l'utilisation de l'extraction de matière de ressources limitées en fait, en permettant ça. Donc c'est vraiment, là par exemple, c'est vraiment stimuler cette économie circulaire. Là, la vision d'HP, c'est stimuler l'économie circulaire au niveau global et en local. Et moi, mes next steps sont principalement orientés vers ces actions-là, ouais.
Donc, si tu avais un mot de la fin, un mot à donner à nos auditeurs, ce serait quoi?
Ah, si j'ai un mot à donner à nos auditeurs, je pense que ce serait vraiment consommer, oui, mais consommer en prenant en considération vos vrais besoins. Et rapporter vos PC. Et rapporter vos PC.
Et rapporter vos smartphones, tout ce que vous avez.
Exactement.
Ouais. Oh, merci. Merci beaucoup d'être venu dans l'empreinte. J'ai appris énormément de choses et ça me rassure de voir des entreprises qui se bougent comme ça et puis des personnes derrière ces postes-là. Donc, deux ans, je te dis, dans un an ou même dans deux ans, on se reparle. Tu auras déjà avancé, je pense, à une vitesse grand V. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Et merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.